RCF. L'évangile de ce jour met en scène la première visite de Jésus à Jérusalem. Lorsque nourrisson, il est amené au sanctuaire dans les bras de ses parents pour effectuer les premiers rites religieux de sa vie. Raconté par Luc, cet épisode donne lieu à deux rencontres émouvantes, celle du vieillard Siméon, qui attend depuis si longtemps le Messie, mais aussi celle d'Anne, la prophétesse, qui s'émerveille devant l'enfant. À travers cette scène dont le théâtre est le temple de la ville, Luc semble vouloir illustrer la façon dont l'Ancien Testament accueille le nouveau, avec joie et gratitude. Pour commenter ce passage, je reçois Sébastien Anthony, bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous êtes prêtre assomptionniste. Nous écoutons la parole chez Luc, chapitre 2, versets 22 à 40.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Sébastien Anthony, ce passage que nous venons d'entendre est situé juste après le récit de la naissance de Jésus, chez Luc. Luc qui est le seul à donner des précisions sur la petite enfance de Jésus.
Oui et non. C'est-à-dire que Matthieu aussi en donne et ce ne sont pas les mêmes justement. Luc va beaucoup insister sur notamment ce qui préexiste à Jésus d'une certaine manière, les annonciations, Zacharie, Jean-Baptiste. Et dans Matthieu, on retrouvera ce que l'on ne trouve pas là, chez Luc, en l'occurrence, c'est l'épisode des mages, par exemple, avec la visite des mages à Jésus à Bethléem après sa naissance, ou la fuite en Égypte également, dont Luc ne parle pas. Donc les deux, Matthieu et Luc, ont chacun un projet différent. Alors, on pourra dire soit Luc, effectivement, n'était pas au courant, pourquoi pas, de la visite des mages, image ou voilà. Soit c'est, et je pense que c'est plutôt ça, c'est un autre projet d'écriture. C'est-à-dire que l'écriture de chacun des évangiles répond à un projet d'écriture par les évangélistes.
Ben voilà. Oui, qui sont écrits plus tard que la résurrection, bien sûr. Hein.
Et avec un projet derrière. Pas forcément de raconter la même chose, sinon on n'en aurait qu'un d'évangile, mais avec une destination particulière, soit un public particulier. Là, Luc, en l'occurrence, c'est pas le même public que Matthieu, si j'ose dire. Matthieu, au départ, il écrit pour des juifs, et Luc, lui, beaucoup plus largement pour tous ceux qui voudront bien accueillir cette parole. Donc nous. Donc c'est intéressant d'avoir du Luc cette année.
Juste avant le verset 22 où démarre notre évangile, il y a le verset 21 qui dit « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. » Il est question de la circoncision et j'y reviens parce qu'il y aura aussi un autre rite dans ce texte qui est la purification. Là, on voit que Jésus s'inscrit vraiment dans la tradition juive qui est sa propre famille.
C'est ça, Dieu entre vraiment dans l'histoire. Et en entrant dans l'histoire, il entre dans une culture. Et il entre dans une manière de faire, une manière de comprendre le monde, de comprendre Dieu et de prier. Donc vraiment, il épouse toutes les conditions finalement de la vie juive. Et ça passe effectivement par la réception du nom. Alors, c'est effectivement, il s'appelle Jésus, mais le sens du mot Jésus, c'est le Seigneur sauve. Ça veut dire que l'évangile, on est au tout début de l'évangile, vous le disiez. Hein. Jésus est encore nourrisson. Dès le début, Luc va placer son évangile sous cette bannière, sous cette ombrelle, je sais pas comment il faut dire, du salut. Cette venue de cet enfant, ce Jésus, apporte le salut, il sauve, il le porte jusque dans son nom, le Seigneur sauve. C'est l'ambition de Dieu pour toute l'humanité, c'est de la sauver.
Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant sa vie publique, on voit Jésus qui souvent prend beaucoup de liberté par rapport au rite, notamment par rapport à la pureté. Et en fait, dans cet évangile, il est là et il fait comme tout le monde. Il va à Jérusalem accomplir avec ses parents ce que fait tout bon jeune juif.
Alors, c'est un nourrisson, donc il n'a pas trop le choix de faire ce qu'il fait. C'est effectivement ses parents qui le mènent. C'est Marie et Joseph, finalement, qui sont les dépositaires de cette histoire juive. Un peu plus tard, effectivement, il y a un autre passage où Jésus a 12 ans. Donc là, on pourra dire qu'il a un peu plus de liberté, si on veut. Mais là, effectivement, ce sont ses parents. Et il y a tout ce jeu aussi, on le verra un peu plus tard, avec ces deux autres personnages, Anne et Siméon, qui aussi figurent et disent quelque chose de ce peuple juif et de cette attente. En tout cas, il ne s'agit pas, pour Jésus et pour Dieu, de faire autrement que de rentrer dans l'histoire humblement, pas par coup d'éclat ou en s'imposant, en faisant différent, en cassant je ne sais quoi. Il entre de manière simple dans cette histoire-là. Et la purification dont on parle, les versets suivants, le mot purification est un peu piégé.
En fait, c'est Marie qui vient pour être purifiée. Toute femme devait être purifiée après avoir accouché d'un enfant.
Exactement. C'est-à-dire que, alors, c'est pas parce qu'il y a une saleté. Purifier aujourd'hui, on entend effectivement nettoyer quelque chose de sale. Pas du tout.
Ça ne veut pas dire ça du tout.
Pas du tout.
Dans la culture juive.
Absolument pas. Au contraire. Ça a même été repris même dans la culture chrétienne, si vous voulez, où pendant la messe, on purifie, après avoir donné la communion, on dit que l'on purifie le calice. Le calice n'était pas sale, il a contenu le précieux sang, il a contenu le sang du Christ.
C'est pas de la vaisselle.
C'est pas de la vaisselle sale, c'est qu'il a contenu de la vie. Et là, quand une femme donne au monde la vie, elle est tellement respectée, cette vie et ce don de la vie, qu'il faut un rite de passage, qu'il faut quelque chose pour revenir, si j'ose dire, à la vie ordinaire. Ce qui s'est passé là, donner naissance, eh ben c'est pas anodin. Et ça magnifie quelque part la femme. Il s'agit pas de la laver d'une souillure, pas du tout. C'est pas de ces purifications là. C'est de dire tu as donné la vie, tu te rends compte que tu as donné la vie. Enfin c'est pas rien. Eh bien il y a besoin de ce rite de purification qui s'appelle comme ça pour revenir, on va dire, à l'ordinaire des jours.
RCF, enfin une bonne nouvelle. Sébastien Anthony, nous lisons avec vous l'évangile de ce jour. Les parents de Jésus amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Là encore, c'est une tradition dans laquelle s'inscrivent les parents de Jésus, consacrer l'aîné. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 3, que ce verset est retiré. De manière traditionnelle, en fait, tout ce qui est promis, on appelle ça aussi les prémices, sont confiés, consacrés au Seigneur. Ça va des fruits.
Les premiers fruits de la récolte.
Les premiers fruits de la récolte sont consacrés au Seigneur jusqu'au premier enfant d'un couple, premier mâle d'un couple, qui est donné, offert aussi au Seigneur.
Et qu'est-ce que ça signifie alors ?
Que tout est rendu en fait au Seigneur. C'est une action de grâce, c'est rendre grâce, c'est redonner ce qui a été donné. C'est-à-dire que on considère, en tout cas l'homme religieux juif considère que tout ce qu'il a, il l'a reçu. Et donc que ça soit les fruits, que ça soit les animaux, les premières naissances d'animaux,
les enfants
et son enfant. Et voilà, et son enfant, et il le rend au Seigneur, il reconnaît que c'est lui qui lui a donné, qui lui a confié. C'est pas sa propriété. Un autre vivant n'est pas la propriété de celui qui lui donne la vie. Paradoxalement, c'est intéressant de le dire comme ça. Il est reçu. Et tout l'évangile aussi, même dans l'évangile, Jésus va dire, voilà, cette bonne nouvelle qui donne vie, elle est reçue aussi. Personne n'est propriétaire. Tout le monde est intendant, et quand on reçoit un enfant, on n'est pas propriétaire de la vie d'un enfant, elle nous vient de Dieu, et on lui rend, on lui présente, on reconnaît que c'est lui qui nous le donne. La vie, c'est pas nous qui en sommes propriétaires, elle nous est donnée, et on la transmet.
Et cette action de remercier, de rendre grâce, devait avoir lieu au temple de Jérusalem, parce que là, ça se passe à Jérusalem.
Ça se passe à Jérusalem parce que c'est dans le lieu de Jérusalem où on offre justement les sacrifices. On parle de deux petites tourterelles là qui sont données.
Ils vont apporter un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Voilà. Tout dépend de la richesse, de votre fortune. Si normalement, on offre un agneau. On offre un agneau pour présenter son enfant, son premier-né. On offre un agneau qui accompagne cette présentation. Mais les plus pauvres, donc Jésus est pauvre d'une certaine manière.
Apportait des colombes.
C'était voilà. Alors après, il y a une autre interprétation aussi qui est donnée, qui est l'interprétation de France Quéré.
Théologienne protestante
qui dit ses parents ne pouvaient pas apporter un agneau puisque l'agneau de Dieu c'est lui. Ses parents ne pouvaient pas offrir ce qu'il était lui-même. Voilà, mais c'est très beau aussi de dire cela, c'est-à-dire c'est déjà reconnaître Jésus qui va se présenter comme étant l'agneau de Dieu, va s'offrir aussi d'une autre manière à la fin de sa vie.
Nous poursuivons la lecture de cet évangile. Nous sommes au temple, donc avec Marie et Joseph et l'enfant Jésus. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Qui est Siméon, ce prêtre de Jérusalem ?
On n'en sait pas plus. Ce que l'on sait, en tout cas, il y a un jeu aussi avec son prénom. Siméon, ça veut dire Dieu a écouté.
Et Siméon a écouté aussi.
Et ben voilà. Et justement, Dieu a écouté. Il a écouté la demande de ce Siméon, de cet homme. Si vous regardez l'ensemble des personnages de ces premiers chapitres de Luc, vous avez Zacharie, vous avez Élisabeth, vous avez la Vierge Marie, bien sûr, vous avez Joseph aussi. Ce sont des personnages qui sont tous en éveil et en attente. Et c'est cet éveil, cette attente, cette ouverture à plus large qu'eux, à ce qu'ils ne connaissent pas encore mais qu'ils sont sûrs que ça va arriver, c'est ça qui leur permet d'accueillir et de reconnaître le Seigneur. Tous ceux qui sont blasés, tous ceux qui n'attendent rien, tous ceux qui savent, tous ceux qui, finalement, dont l'esprit est fermé parce qu'ils sont persuadés de détenir la vérité à eux tout seuls, vont tous manquer le Seigneur. C'est une invitation pour nous aussi à être des hommes, des femmes de désir, d'ouverture. C'est là que l'on reconnaît le Seigneur. C'est pas dans des choses, encore une fois, acquises, reçues, transmises, paquets cadeaux, reçus sans pouvoir même les discuter. C'est dans notre goût, dans notre appétence à l'inattendu que l'on reconnaîtra le passage du Seigneur.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Sébastien Anthony, nous regardons donc cette figure, belle figure de Siméon, appelé juste et religieux. Et dans l'extrait qui a été lu, il y a deux fois ou même trois fois la mention de l'Esprit-Saint. On a l'impression que c'est central dans la vie de cet homme. Qu'est-ce que vous diriez sur cet esprit ?
Là encore, cet Esprit Saint, il faut relire avec. Il est à l'œuvre dans plusieurs passages. Il était aussi à l'œuvre, rappelez-vous, à l'Annonciation, quelques versets plus tôt, où l'Esprit te couvrira de son ombre. Cet Esprit, c'est la force du Seigneur, l'œuvre du Seigneur qui se manifeste. On ne sait pas comment. Un peu plus tard dans l'évangile, c'est dans l'évangile de Jean, mais ça marche aussi. L'esprit, c'est comme un vent, il souffle, il va comme il veut. On ne sait pas ce que c'est l'esprit. On sait que c'est Dieu. C'est quelque chose qui nous saisit. Alors, on le compare à du souffle parce que le souffle, c'est ce qui fait vivre. Donc, l'esprit nous fait vivre. On le compare aussi à du feu parce que c'est ce qui nous donne de la force. L'esprit, c'est quelque chose de l'action de Dieu qui nous permet de le reconnaître dans le monde, des traces de son passage qui nous permet de le reconnaître. Et effectivement, il est cet homme tout pétri d'esprit parce que pour lui, le Seigneur va être là. Il l'attend, il en est sûr. Il va le reconnaître dans cet enfant. Franchement, reconnaître Dieu dans un enfant, dans un nourrisson, est-ce qu'on le ferait, nous ? C'est pas évident. Il faut être pétri de Dieu pour pouvoir oser cette parole complètement folle de dire oui. Effectivement, c'est là que je reconnais le salut, c'est dans cet enfant que je reçois dans mes bras que le salut se manifeste.
Alors ce qui est très beau justement, c'est que Siméon reçoit l'enfant dans ses bras et il le bénit. Et puis il y a tout le cantique après de Siméon qui dit finalement, tu peux me laisser partir parce que ça y est, mes yeux ont vu le salut que tu préparerais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Qu'est-ce que vous diriez de ce geste ? Qui est pas rien, on imagine le prêtre quand même, voilà, dans toute son importance.
C'est un vieillard aussi, c'est un vieillard qui reçoit la sagesse d'un vieillard, reçoit la nouveauté d'un tout jeune couple qui se présente à lui, avec cet enfant qui lui est présenté.
Et c'est pour ça que j'évoquais peut-être la première alliance, l'Ancien Testament, qui accueillait le nouveau.
Exactement, et quelle humilité. Quelle humilité de cet homme de justement, il se présente pas comme un sachant qui écrase de sa superbe et de son âge et de sa prestance et de sa théologie les autres. Il accueille dans cet enfant et il le reconnaît comme étant celui qui apportera le salut non seulement à Israël mais à toutes les nations.
Oui, alors c'est ça, c'est important. Hein. C'est pas simplement pour le peuple dans lequel Jésus s'enracine et vit, mais c'est pour l'ensemble du monde.
Les premiers croyants, les premiers chrétiens ont eu du mal avec cette idée-là, que finalement le Seigneur Jésus, la venue du Christ, était pour toutes les nations. On a des passages, notamment dans les lettres de Paul aux Romains, où on voit qu'il y a eu des frictions, des tensions. On dit mais non, c'est uniquement pour le peuple juif, c'est le peuple juif qui attend le Messie, et le Messie ne sera que pour les Juifs. Et Paul va être un de ceux qui va dire non, on l'ouvre beaucoup plus largement. Le Seigneur s'annonce pour toutes les nations. Et Luc, l'évangéliste, est un disciple de Paul. Donc il est formé par Paul et par ce désir-là. Et dans son œuvre, Luc écrit son évangile et il écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Les actes des apôtres ». Et le début donc de son œuvre, de ces deux tomes, si vous voulez, commence déjà par parler de cette ouverture aux nations comme une affirmation. Et la fin des actes des apôtres marquera aussi cette même affirmation parce qu'on y parlera des voyages de Paul qui va annoncer cette bonne nouvelle à tous. Donc c'est une manière discrète de dire... L'ancienne alliance, figurée par Siméon, là, le premier testament, si vous voulez, toute l'attente de ce peuple, comprend qu'il, certes, est gloire d'Israël, c'est-à-dire manifeste sa mission au cœur des nations, mais que le salut n'est pas sa propriété. Que le salut, que la venue du Seigneur, cette bonne nouvelle d'être aimé de Dieu, n'est pas réservée aux Juifs, pour faire court, mais est ouvert à toutes les nations. Et ça, c'est extraordinaire, ça c'est une puissance qui du coup nous permet de nous inclure dans cette promesse.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Sébastien Anthony, cet évangile est très long. Il faut dire quand même que les parents s'étonnent de tout ce que dit le prêtre, la Siméon. Ils s'étonnaient de ce qui était dit de lui.
comme tous les parents du monde, ils apprennent à être parents. Et je pense, alors moi je n'ai pas d'enfant, hein, je suis prêtre, mais j'imagine que beaucoup de nos auditeurs en ont et qu'ils se souviennent peut-être du moment où ils présentent leur premier-né. D'abord, eh bien, on fait des compliments, on dit des choses, on souhaite plein de choses et les parents sont sans doute un petit peu déstabilisés et étonnés. Là, ce que dit Siméon de cet enfant, il va dire des choses difficiles et dures. Il va provoquer la chute, il va y avoir des contradictions, il va y avoir des choses compliquées. C'est
ça. Et il dit à Marie, ton âme même sera transpercée par un glaive.
C'est ça. Et c'est étonnant parce que tout commence dans une bénédiction. La venue du Seigneur est une bénédiction. Mais la bénédiction n'empêche pas la dureté de la réalité de la vie. La bénédiction de Dieu, quand Dieu vient dans le monde, il ne supprime pas les difficultés de la vie. Trop souvent, on a cru ou on croit encore que finalement Jésus est une sorte de, ou la foi est une sorte de palliatif ou de je ne sais quoi qui permet de traverser la vie de manière monde des bisounours où tout ira bien si on a la foi. Non, la grâce, la bénédiction du Seigneur ne casse pas la réalité de la dureté de nos vies. Elle permet de la traverser autrement, elle se loge dans la dureté de l'existence, c'est vrai, mais en tout cas elle ne supprime pas la difficulté. Et même Marie va voir effectivement son âme transpercée. Là, l'expression l'âme transpercée de Marie, elle a donné lieu à une fête, enfin une fête, une célébration qui se fête en septembre, le 15 septembre, qu'on appelle Notre-Dame des douleurs. Ce sont toutes les difficultés que cette femme, Marie, a pu rencontrer et vivre.
Et qui a été partagée, ces difficultés, par tant de mères aussi.
Exactement. Il ne s'agit pas de magnifier la souffrance, il s'agit de dire la souffrance que tant de mères, que tant d'hommes, que tant de femmes traversent, Dieu la connaît. Et ses plus chers l'ont connu aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on est des maudits ou des abandonnés de Dieu quand la souffrance nous frappe. Et certains peuvent le croire parfois en disant « Le Seigneur m'a abandonné, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» C'est pas du tout un abandon du Seigneur. Mais le Seigneur, en tout cas, ne tord pas la réalité, ne détruit pas la réalité. Une réalité qui a besoin d'être sauvée, justement. Le monde est limité par le mal qui le traverse. Eh oui, le mal existe, le mal est là, et il ne s'agit pas de le nier. Mais le Seigneur va nous permettre de le traverser autrement, non pas de le supprimer, mais de le traverser, ce qui est différent.
Sébastien Anthony, il faut dire quand même un petit mot sur Anne, la prophétesse, puisque c'est le deuxième personnage du temple qui vient vers Jésus. Qu'est-ce que vous diriez de cette femme dont on dit qu'elle est prophète ?
Elle est prophète, c'est-à-dire qu'elle porte la parole, elle porte quelque chose de cette espérance de la parole du Messie. On dit aussi qu'elle a 84 ans, c'est pas un petit artifice comme ça. 84 ans... C'est, si je ne me trompe pas en mathématiques, c'est 12 fois 7.
Et dans la Bible,
quand on a des chiffres, c'est jamais pour compter, c'est toujours pour dire quelque chose derrière. 7, c'est le chiffre de la création, la totalité de tout ce qui a été créé. 12, c'est le chiffre des Juifs, des 12 tribus d'Israël, si vous voulez. Donc, on redit exactement ce qui a été dit pour Siméon, plutôt, pour toutes les nations, tout ce qui a été créé, et pour Israël, le chiffre 12. Donc, en fait, ils disent exactement la même chose tous les deux. Dans ses 84 ans, le monde tout entier a attendu celui qui se présente. Le monde, et dans ce monde-là, le peuple d'Israël attend aussi tout particulièrement, et va le désigner, parce que ces deux-là, Anne et Siméon, sont juifs tous les deux, et c'est eux deux qui vont désigner celui que le monde attend, et que le peuple hébreu attend, que les juifs attendent. C'est ça la mission des juifs au cœur du monde, c'est de reconnaître le salut de Dieu à l'œuvre, non pas pour eux, comme privatisés, mais pour tous. Ce sont les veilleurs et les éveilleurs.
Sébastien Anthony, en quoi cet évangile que nous avons lu avec ce rite de la purification, le sacrifice des colombes, la visite de ces deux personnages que sont Siméon et Anne, en quoi cet évangile il nous dit quelque chose aujourd'hui ?
Eh bien que le salut est pour tous, que le Seigneur se présente pour tous sans distinction, sans distinction de richesse et même à la limite il se présente parmi les plus pauvres. Et toute cette vie de Dieu finalement ne va pas valoir grand chose parce que là on commence effectivement par deux petites tourterelles et à la fin de sa vie il sera vendu pour 30 pièces d'argent le prix d'un esclave. Comme pour dire finalement que la vie de cet homme elle vaut pas grand chose. Et pourtant elle vaut tout parce que justement le précieux d'une vie, le précieux d'une vie, le précieux de nos vies, de toute vie, se loge justement dans la considération que Dieu en fait. Et nous sommes tellement aimés par Dieu. Et toutes les nations, pas seulement quelques-uns ou des élus ou des préférés, toutes les nations, nous sommes les préférés de Dieu. Et c'est quelque chose qui se dit déjà là, parce que dans cette attente de Siméon et d'Anne, nous avons toutes cette même attente finalement d'être aimés, chacun. Et là, la réponse, en tout cas, elle se propose dans le Seigneur qui vient, à nous de l'accueillir ou pas, selon notre liberté. Mais cette réponse, en tout cas, moi je fais le pari de la foi. Et elle se révèle pour moi dans ce Christ que je reconnais comme mon sauveur.
Vous avez beaucoup insisté sur l'écoute de Siméon, qui est à l'écoute et qui essaie de discerner dans la réalité, de sa réalité, la présence. C'est aussi pour nous un enjeu aujourd'hui, justement, dans l'univers qui est le nôtre, ordinaire, de voir là où Dieu me parle, à travers les autres, des événements.
Exactement, et même parfois dans des événements inattendus. On a traversé une année compliquée avec le Covid, la première partie de l'année, et là encore, l'automne est compliqué. Est-ce que le Seigneur est présent là ? Oui, il est présent là, dans cette vie-là, comme elle est. Être en capacité, comme Siméon, de le croire, alors c'est un acte de foi, mais de ne pas rêver Dieu ailleurs qu'ici. C'est tout le sens de l'incarnation. L'incarnation, ça veut dire que Dieu prend chair, et Dieu n'a pas joué à être un homme. Dieu n'a pas. Il épouse une culture, il épouse notre humanité comme elle est. Donc il est forcément présent dans la réalité de nos événements du monde et de notre vie comme elle est. Il n'y a pas à le chercher ailleurs, il n'y a pas à s'inventer une vie, il n'y a pas à multiplier je ne sais quelle autre fuite du monde par des rites ou par des choses étonnantes ou par tout ce qu'on voudra, des espèces de méditation, de transe ou quoi encore. Dans la réalité de notre vie, c'est là que le Seigneur nous rejoint, et même dans des réalités très fragiles comme celle d'un nourrisson, comme celle d'un tout petit, et c'est en lui que Siméon a reconnu finalement la réponse de toutes ses attentes.
Dieu était là et je ne le savais pas. Finalement, c'est peut-être ce que se sont dit Joseph et Marie. Dans leur cœur, une parole d'Élie, je crois, qu'ils ont pu reprendre à leur compte.
C'est ça, en fait, qui est très, très beau. C'est-à-dire que même Joseph et Marie, qu'on pourrait dire, oh là là, ils savaient tout, c'est formidable. Et attendez, ce ne sont pas des marionnettes, C'est-à-dire qu'ils font aussi, ils ont aussi leur très grande liberté et leur découverte progressive, finalement, de qui est le Seigneur, de qui il est pour eux aussi. Et comment ils vont être sauvés. D'ailleurs, Marie, on voit dans d'autres passages, elle retient tous ces événements dans son cœur, là elle est surprise, là elle pose des questions, mais parce que justement sa foi grandit, sa foi devient au contact de son fils, comme nous, au contact de Jésus, notre foi grandit, notre foi devient. Marie, parfois on la présente presque comme une semi-déesse ou quelque chose de où tout serait facile pour elle, mais non, encore une fois on lui dit bien, un glaive transpercera ton cœur, il n'y a aucune facilité pour cette femme. Pas plus que pour nous. Elle passe par les mêmes étapes finalement d'une foi qui se révèle au contact de son fils. Et Joseph, c'est pareil. Et pour nous aussi, c'est pareil. Et pour Siméon, pour Anne, dans leur réalité, dans leur âge, dans ce qui fait leur vie, dans leur désir. À nous, du coup, peut-être, à leur écho et à leur suite, de vérifier notre désir du Seigneur, de vérifier notre désir de l'amour et, je l'espère, de trouver la réponse à toute cette aspiration profonde que nous portons tous dans le Christ Jésus.
Merci à vous, Sébastien Anthony. Je renvoie nos auditeurs à l'évangile que nous avons lu. C'est chez Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.